Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue dans Milk Checker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation et j'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, trouver et libérer chez les bébés les tensions qui les empêchent de téter correctement afin de mettre en place un allaitement serein. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés. Des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous allez découvrir l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans leur domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes pour savoir vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et briser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Et ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milk Checker de continuer de s'agiter, c'est vous. Par chaque partage ou recommandation autour de vous, mais aussi sur les réseaux, vos écoutes, bien sûr, et vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais vraiment très reconnaissante de prendre une petite minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Depuis le temps que je voulais l'interroger, qu'on parle du BN dans différents épisodes, qu'il soit témoignage ou expert, il était grand temps que Suzanne Colson débarque au micro de Milk Checker, et c'est chose faite. Je suis allée la rencontrer chez elle pour qu'elle nous parle du Biological Nurturing, plus souvent appelé BN de son petit nom, et ce qui est souvent assimilé à une position d'allaitement est en fait bien plus que ça. Suzanne va vous l'expliquer au travers des réponses aux quelques questions que j'avais à lui poser. Pas de technique particulière ici, pas d'injonction, mais simplement comprendre la physiologie pour ne pas l'entraver, permettre à tous ces mécanismes qui rendent l'allaitement naturel d'opérer. Pour prolonger ce podcast, je ne peux que vous conseiller le livre de Suzanne, L'allaitement instinctif. Installez-vous bien confortablement comme elle le préconise et préparez-vous à plonger dans le bain d'ocytocine dont vous avez besoin pour allaiter. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Suzanne, bienvenue dans Milk Checker.
Bonjour Charlotte, merci de m'avoir invitée.
Mais avec grand plaisir, ça fait un moment qu'on essayait de caler cette interview.
Oui.
Je suis vraiment ravie de t'interroger sur ce sujet parce que c'est toi la pionnière de cette histoire. Alors aujourd'hui, Suzanne, ensemble, on va parler du Biological Nurturing, plus communément appelé le BN de son petit nom.
Ouais.
Pour commencer, Suzanne, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu et puis comment tu t'es penchée sur ce sujet du BN?
Quand je pense à me présenter, j'aime toujours dire que je suis maman moi-même de 3 enfants que j'ai allaités dans les années 70. Donc, à cette époque-là, personne n'allaitait. Et d'ailleurs, je suis une des mères fondatrices de la Laitie League. Parce qu'en 74, j'allaitais déjà mon fils qui avait 8 ou 9 mois. Et la Laitie League, j'ai lu dans le journal qu'il y avait un groupe qui s'appelait la Laitie League pour l'allaitement maternel. Donc, j'ai foncé pour aller assister à ces rencontres. Et je me sentais bien placée puisque je suis franco-américaine et c'était à l'origine un mouvement américain. Donc... Par la suite, j'ai travaillé avec Michel Audon à Pithiviers et c'est là où vraiment j'ai compris les liens entre un accouchement physiologique ou je devrais peut-être dire la physiologie de l'accouchement et la physiologie de l'allaitement maternel. Donc j'avais déjà une certaine expérience quand je suis allée à Pithiviers. Mon petit dernier avait presque 4 ans. et il venait de se séparer. Donc, j'ai une longue, longue histoire personnelle d'allaitement au-delà de 10 ans. Dans toutes les circonstances, j'ai co-allaité. J'ai vraiment vécu l'allaitement moi-même comme une activité quotidienne.
Donc, en fait, tu as commencé avec l'allaitement en tant que maman.
Exactement.
Et après, avec la Leche League, où tu as été finalement une accompagnante Leche League aussi.
Oui, j'étais animatrice pendant de nombreuses années. Et puis, donc, je suis partie travailler un tout petit peu à PTV en tant que consultante en lactation. Enfin, ça n'existait pas à l'époque, mais c'était un peu comme cela. À partir de cette expérience-là, j'ai fait la formation de sage-femme. C'était assez difficile. J'avais déjà 41 ans à l'époque où j'ai commencé. Donc, j'étais très intéressée par la naissance. J'ai fait beaucoup d'accouchements et travaillé en salle de naissance et aussi un tout petit peu avec un plateau technique en libéral. Mm-hmm. Ce n'était pas véritablement libéral parce que j'étais toujours attachée à la NHS en Angleterre. J'ai fait mes études de sage-femme en Angleterre. Et par la suite, je m'intéressais encore à l'allaitement et je commençais à faire une recherche sur l'allaitement. Et donc, je raconte un peu de tout cela dans mon livre et toute cette démarche pour soutenir les bébés préma, aussi bien que les bébés nés à terme en bonne santé. Mm-hmm. Lors des recherches, j'ai terminé un doctorat, une maîtrise d'abord et puis un doctorat en allaitement, lactation humaine. Et j'ai aussi enseigné à l'université pendant quelques années, presque 10 ans.
D'accord.
J'étais maître de conférence, donc je faisais la formation de sage-femme. Et surtout l'enseignement tout autour de l'allaitement. Donc voilà un peu. Je pense que réunir toutes ces activités que j'ai pu avoir donc me place bien pour présenter une nouvelle approche.
Ouais, je pense.
Maternel.
Pas mal. Ça fait un bon CV pour présenter une nouvelle approche. Alors, moi, j'ai envie de te demander déjà, en une phrase, si tu pouvais me décrire ce que c'est que le BN, tu me dirais quoi? Si moi, en tant que professionnelle de santé ou une maman qui veut l'expliquer à une autre maman, qu'est-ce que c'est le BN en juste une phrase, tu vois, sans tout développer tout de suite? Comment on pourrait bien le résumer pour comprendre ce que c'est?
Le BN, c'est l'allaitement instinctif pour les mères et les bébés, un acte involontaire entre deux mammifères purs.
Ok, bah la question suivante, du coup, ça va être: comment est-ce qu'on pratique le biological nurturing?
En tant que mère ou en tant que professionnelle?
Alors, en tant que maman.
En tant que maman, c'est l'allaitement instinctif, à ne pas confondre avec l'amour instinctif ou l'instinct maternel. Je ne suis pas en train d'ouvrir un débat pour savoir si les mères ou toutes les mères ont des instincts maternels. Je pense que pas mal de gens confondent ça. Quand je parle de l'allaitement instinctif, je parle de gestes, de vocalisations universelles que toutes les mères font en pratiquant le BN.
Okay.
Alors, pratiquer le BN, c'est facile, il n'y a pas de protocole, c'est le confort. Donc, on va s'asseoir confortablement. Alors, dans tous les protocoles d'allaitement, on dit que la maman doit être confortable. Et puis, on impose deux positions qui sont les plus inconfortables à tenir pendant
surtout
longtemps.
Surtout en postpartum.
Exactement. Donc, être assise avec... quelques ostéopathes appellent ça la position de la dactylo. Et que c'est la position la plus difficile à maintenir pendant longtemps. Longtemps, entre 15 minutes et une heure, ou deux heures, n'est-ce pas? Donc, on impose ces positions-là, et même l'allaitement sur le côté, il faudrait vraiment se caler bien et avoir à la portée de main tout le matériel pour se caler, si on veut être confortable en position sur le côté.
Pour revenir juste sur la position dactylo, pour que les gens comprennent bien, parce qu'on n'est qu'en audio, il faut vraiment imaginer quelqu'un derrière un appareil une machine à écrire là, à l'ancienne, et cette position très droite, vraiment jambes et tronc à 90 degrés, qui en effet est assez difficile à tenir. Et en fait, et pour cause, l'être humain n'est pas fait pour être assis de façon prolongée. En fait, c'est une position hors allaitement contre laquelle on se bat un peu même en tant qu'ostéo pour les gens qui sont devant des ordinateurs, etc. Parce qu'en fait, ils se font mal au dos au fur et à mesure. Ça met beaucoup de pression sur les vertèbres lombaires, beaucoup de pression sur le périnée en fonction de comment on respire aussi. Nous, ce qu'on leur dit en tant qu'ostéo aux gens qui travaillent devant un ordi toute la journée, c'est bouger, en fait. Bouger, aller travailler un coup debout, un coup assis, marcher, déplacez-vous le plus souvent possible pour rester en mouvement. Donc, en fait, c'est assez logique de se dire que ces positions, du coup, assez strictes, qu'on propose aux mamans allaitantes d'être assises, le dos droit, etc., ne sont pas confortables. Et de surcroît, en postpartum, avec éventuellement une cicatrice au niveau périnéal, peut-être une cicatrice au niveau césarienne, si on en a une, etc., ça rajoute encore de l'inconfort sur l'inconfort.
Oui, et j'ajouterais qu'on a les bras qui tiennent le bébé, n'est-ce pas ? On est obligé d'appuyer fort sur le dos du bébé, et le bébé est toujours dans une position transversale à travers le corps, même le bébé en soi-disant la prise rugby. J'ajouterais qu'il n'y a pas une seule mère qui va rêver pendant toute la grossesse de tenir son bébé comme un ballon de rugby. Donc je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui cherchent à tout contrôler, même le vocabulaire,
même le vocabulaire de l'allaitement.
À l'allaitement maternel.
Donc, un, le confort. Dans quelle position, du coup, peut se trouver la maman si on veut développer un peu cette notion de confort ?
Mais il n'y a pas un degré d'inclinaison en arrière qui est universel. La position même, c'est une variable qui change entre la position absolument tout droit comme un piqué et la position où elle est à plat dos. Donc, ce qui est important en BN, c'est que la maman puisse voir son bébé sans dépense énergétique. C'est-à-dire, si elle doit baisser la tête pour voir son bébé en vertical, par exemple, en ce moment-là, elle se tourne le cou pour maintenir le regard bienveillant.
Bien sûr.
Et toutes les mères adorent regarder leur bébé quand leur bébé tête.
Tout à fait. Et après, on les voit en consultation parce qu'elles ont mal au cervical.
Exactement, exactement. Et si elle est à plat dos, la même chose, elle élève la tête contre l'apesanteur. Mmh. Elle fait ça 2-3 fois et puis elle ne le fait plus. Mmh. Donc, elle ne voit pas son bébé. Pourtant, beaucoup de gens, beaucoup de professionnels mettent la mère, enfin, en accouchement, en position gynéco. Et puis, on pose le bébé après l'accouchement, après la naissance, sur la maman entre ses seins ou sous son cou ou loin. Tous ces endroits-là ne sont pas la bonne adresse. Donc ça, c'est important. Et puis la maman élève la tête contre la pesanteur. C'est épuisant pour elle. Elle ne le fait pas au-delà de 3 ou 4 fois. Et si quelque chose arrive au bébé, si le bébé a un trouble respiratoire, c'est à la mère qu'on va blâmer. On va dire, elle n'a même pas remarqué. Mais c'est nous qui la mettons dans une posture où elle ne voit pas bien son bébé.
Mmh. Ah ouais, tout à fait. Donc du coup, quelque part, entre cette position stricte assise et la position allongée sur le dos, il y a toute une variation d'inclinaison du tronc vers l'arrière, qui vont différer de chaque couple maman-bébé, de chaque environnement aussi dans lequel elle se trouve. J'imagine que ça peut évoluer pour le même couple maman-bébé d'un jour à l'autre, d'une heure de la journée à une autre.
Oui, même pendant la même tête. Elle peut changer de position. C'est un peu, ça a été dit dans mes formations certifiées en BN, que c'est une position Netflix. Parce que, et on change de position quand on regarde la télévision.
Tout à fait.
Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de dire Netflix et...
Ça va, je pense que tout le monde comprendra. Position télé, en tout cas.
Oui, position de télévision, souvent, je le disais au maire, comme si vous regardez la télévision, je ne peux pas vous dire. Mais vous êtes confortable et que vous voyez votre bébé confortablement.
Oui, vous vous affalez un peu.
Oui, exactement.
Dans votre position de confort, exactement. Mais affalé. Donc ça, c'est le premier point, c'est le confort de la maman. La deuxième composante.
C'est-à-dire qu'il y a 6 composantes de base. Ce sont des composantes ou des variables universelle. Donc, tous les bébés, par exemple, la tête en état d'éveil, d'éveil calme, le bébé peut très bien prendre le sein quand il pleure ou quand il est dans un état d'éveil actif, mais c'est des fois plus difficile. Mais surtout, en BN, beaucoup de bébés, au départ, prennent le sein endormi. Et c'est un sommeil indéterminé. Alors, si vous voulez, ça, c'est nouveau. Parce que dans tous les protocoles, on dit qu'il faut attendre que le bébé soit au moins dans un état d'éveil précoce. Et si on attend comme cela, on va manquer peut-être la facilité de la mise au sein. Parce que les bébés passent très peu de temps pendant les premiers jours et semaines dans un état d'éveil calme. Alors, les neuropédiatres disent, comme tel que Prechtel, qui est maintenant décédé, mais il a beaucoup, beaucoup travaillé sur les états de vigilance chez le fœtus aussi bien que chez le nouveau-né, et l'évaluation neurologique du nouveau-né. Et donc, lui, il suggère, et ses observations sonographiques suggèrent que le bébé ne reste que 3 minutes en moyenne au départ, surtout pendant les 3 premiers jours, dans un état d'éveil calme. Alors, ça veut dire que les mères n'ont que 3 à 4 minutes pour aider le bébé à prendre le sein. Comme la plupart des mères démarrent leur allaitement en position verticale, donc, ça rend la tâche beaucoup plus difficile parce que la pesanteur n'aide pas. Et donc, la pesanteur va tirer le bébé loin du sein. Et beaucoup de mères disent que le bébé, il se jette en arrière et il refuse de prendre le sein. Ou bien, il exprime des réflexes d'allaitement, comme le hochement de la tête à droite et à gauche. Ça, c'est un réflexe de fouissement bien connu. Il y a d'autres réflexes de fouissement, par exemple, le réflexe du pivert, que j'appelle le réflexe du pivert, où le bébé, en vertical, tape la tête contre le sein pour le chercher.
Comme un pivert sur un arbre.
Oui, exactement. Donc, en ce moment-là, ça devient très difficile et presque impossible pour les mères d'attacher leur bébé au sein, comme c'est prescrit dans les protocoles de l'allaitement.
Oui, parce qu'en plus, ce qui suit cette phase d'éveil calme, si le bébé, après, n'a pas réussi à se mettre au sein et que ça a généré du stress, c'est un état d'éveil agité où il se met à pleurer et ça rajoute de la difficulté.
Oui, ça rajoute. Tandis qu'en BN, si on met le bébé, on garde le bébé à la bonne adresse, c'est-à-dire que le bébé est au sein, sur le sein, pas sous le sein. Ça c'est important. Toutes les positions classiques, le bébé n'est pas, la tête n'est pas sur le sein. Donc, si on garde le bébé avec la joue contre le sein, il est endormi. Les nouveau-nés passent beaucoup de temps, je dirais 3/4 de leur temps, en état de sommeil. Et dans cette période-là, dans les états de sommeil, la moitié de ce temps est en état paradoxal de sommeil. Donc, en BN, il y a 3 états de vigilance. Il y a le sommeil calme qui vient de se différencier en fin de gestation du sommeil paradoxal et de la somnolence. Et alors, il passe un peu de temps dans un sommeil calme ou profond, et puis beaucoup de temps en sommeil actif ou paradoxal, et beaucoup de temps en sommeil somnolence. Alors, il tête tellement bien dans ces 3 états de sommeil, et ça renforce, si vous voulez, ça renforce les mouvements qu'il a fait tous les jours de sa vie depuis 12 semaines de gestation, succion et déglutition. Et ça commence avec une expression d'un des mouvements généraux que Prechtel identifie chez le fœtus, qui est l'ouverture de la bouche. Alors ça, c'est un mouvement absolument endogène. Ce n'est pas stimulé par un facteur ou un stimulus sensoriel. Mais le stimulus vient à l'intérieur du bébé. Donc peut-être les battements du cœur comme accumulation de flux nerveux qui s'accumulent sur le...
En tout cas, c'est totalement involontaire.
Oui, c'est totalement involontaire. Mais même les réflexes, mouvements de réflexe succion et déglutition, au départ, sont des mouvements involontaires, n'est pas contrôlé, n'est pas pensé ou réfléchi chez le nouveau-né.
Non, c'est
donc
une stimulation.
Souvent, on dit « il veut têter ». Ça n'a rien à faire avec le désir. Et un bébé ne peut avoir un véritable ou exprimer un véritable désir, peut-être que quand il est éveillé dans un état d'éveil calme. Donc souvent on dit que le bébé n'est pas prêt à téter. Pour être prête, moi, je dois être éveillée et puis je dois pouvoir réfléchir à ce que je vais faire. Donc les bébés ne font pas des listes d'activités qu'il faut faire quand ils naissent pour survivre. Ils ont des mouvements endogènes, stimulés par des facteurs endogènes ou exogènes, qu'ils
ne contrôlent pas, ouais,
qui
sont totalement innés.
Et petit à petit, ils vont conditionner les réflexes. Donc, plus on allait de façon ponctuelle, peut-être 3 fois dans 1 heure, et pas 1 fois toutes les 3 heures, qui ne correspond à rien. Pour résumer, on pourrait dire que le nouveau-né développe à partir des compétences qu'il a acquises dans une vie antérieure. Et nous avons tendance à vouloir coller les biorhythmes aussi bien circadiens qu'alimentaires d'un enfant ou un bambin, un enfant plus âgé, à nos bébés. Nos bébés ne sont pas des miniatures d'adultes, bien qu'ils nous ressemblent et c'est adorable.
Donc du coup, tu dirais que, en effet, c'est ce fait d'attendre le moment d'éveil calme n'est pas une bonne idée. Il faudrait que le bébé soit au sein et en train de téter, finalement, le plus souvent possible, en tout cas le plus souvent que ces mouvements manifestent la possibilité de téter. Mais dans ces phases de sommeil, et en fait, on commence l'allaitement à mettre nos bébés au sein trop tard.
Oui.
En résumé.
Ben oui, on attend. Déjà, on a attendu 9 mois. Donc, tout le monde dit aux mères, mais attendre que le bébé soit prêt. Et les bébés sont toujours prêts à téter. Donc, disons que le bébé ne prend pas le sein à la banatresse. En ce moment, au lieu de commencer avec l'enseignement, n'est-ce pas, de techniques d'expression du lait, d'expression manuelle, mm-hmm. on pourrait, si le bébé est à la bonne adresse, on ouvre la bouche, on met le sein dedans et on peut exprimer directement dans sa bouche.
Parce que c'est réflexe pour lui, encore
mais
une
oui,
fois.
Mais oui, mais s'il a la bouche pleine de colostrum, il va déglutir. C'est exactement comme il fait dans l'utérus pendant tout ce temps.
Oui, rappelons que les bébés déglutissent leur liquide amniotique de façon
constante. Ils transfèrent le liquide amniotique. Donc, ils ouvrent la bouche et la bouche se remplit de liquide amniotique et ils déglutissent. C'est un genre de mémoire corporelle pour le bébé de démarrer cet été comme cela. Mais si, il y en a des bébés qui têtent très bien, même tout de suite après la naissance, quand ils sont éveillés, dans un état d'éveil calme.
Oui, oui.
Donc, ce n'est pas la peine de mettre le bébé endormi si le bébé déjà tête très bien, on est éveil calme. C'est juste que face à n'importe quelle difficulté, c'est toujours plus facile de démarrer l'allaitement quand le bébé est dans un état qu'il fait des mouvements dans un état familier.
Donc du coup, ce qu'on pourrait dire aux mamans, c'est si votre bébé tète très bien en état d'éveil calme, que vous en sortez très bien comme ça, bon, tant mieux. Ça va être des phases plus courtes à choper dans la journée pour vous, pour mettre votre bébé au sein. Mais s'il y a une petite difficulté de ce côté-là, qu'on n'arrive pas trop à se caler, la solution, ça va être en fait pas d'intervenir du coup, mais au contraire de le mettre simplement au sein tout le temps et de le laisser avec ses réflexes et ses mouvements involontaires innés, finalement, t'étais dans son état de sommeil. Et c'est ça qui va lui permettre d'acquérir les...
Oui, de conditionner... Oui, des biorhythmes aussi bien, de conditionner les réflexes. Mais je reviens un peu parce que c'est pas qu'on tient le bébé tout le temps au sein, sauf pendant les premières 48 heures.
Oui, mais là, on parle vraiment du démarrage, hein, en effet. Ouais. De, voilà,
mais
comment
la plupart des mères, la plupart des bébés de nos jours et dans nos maternités, dans les pays, je dirais, industrialisés, à haut revenu, alors la plupart des bébés, pendant les premières 48 heures, passent leur temps dans le berceau, à côté du lit de la mère. Alors, c'est dommage de séparer. On appelle ça le maternage proximal. Mais le BN, c'est beaucoup plus qu'un maternage proximal parce qu'au départ et pendant les trois premiers jours, on garde le bébé autant qu'on le désire à la bonne adresse. Alors, on attend 9 mois pour avoir un bébé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Il arrive et elle aura beaucoup de chance si elle a un petit moment en peau à peau avec son bébé après la naissance. Puis, on l'habille, on l'enveloppe dans un linge et on le met dans une boîte en plastique. Alors, je n'arrive pas à comprendre cette attitude. Ce n'est pas comme si on peut donner des mauvaises habitudes à un nouveau-né. On perd tous les mouvements endogènes, c'est-à-dire déclenchés par des facteurs, des stimuli à l'intérieur du bébé. Le bébé fait ça 2-3, il ouvre la bouche 2-3 fois spontanément dans le lit. Il n'y a pas de récompense. Il n'a pas de réponse du tout. Et alors, il arrête de le faire. Et puis, vers le 3e jour, la montée de lait se fait de toute façon. Mm-hmm. Et la plupart des bébés n'arrivent pas à bien contrôler succion et déglutition et coordonner tout cela avec la respiration. Et en ce moment-là, on dit que le bébé est désorganisé.
C'est qu'en fait, il ne s'est pas entraîné pendant ces 3 premiers
jours.
Ben
oui, il a perdu toutes ses compétences qu'il a développées
à l'intérieur
pour transférer le lait. Et au lieu de transférer le liquide amniotique, il transfère le lait. Mais on ajoute à cela la respiration. Donc, c'est tellement facile au départ pour le bébé de sucer 5, 6, 7, 8 fois et puis de déglutir un tout petit peu de colostrum,
oui. Puisque c'est en toute petite quantité.
Alors, de faire ça peut-être 3 fois dans l'heure et puis peut-être 2 fois dans l'heure qui suit, pas du tout dans l'heure qui suit. Et petit à petit, on va conditionner des réflexes bien avant la montée laiteuse. Donc, ça rend l'allaitement tellement plus facile, je dirais.
Oui, c'est-à-dire qu'il s'est échauffé, entre guillemets, pendant
exactement.
Tout ce temps. Il a continué son échauffement qu'il avait commencé en intra-hétéro. Mais là, l'échauffement, il faut rajouter le facteur respiration qu'il faut coordonner. Voilà, vous savez qu'on ne peut pas respirer en même temps qu'on déglutit. Ce n'est pas possible, ça ferme les voies aériennes.
Mais oui, il doit absolument apprendre tout ça.
Et c'est plus facile à apprendre avec du colostrum par petits millilitres qu'avec une montée laiteuse.
Exactement. Donc, il se nourrit. De toute façon, les bébés nés à terme et en bonne santé arrivent au monde bien nourris. Ils ont des réserves qu'ils ont stockées pendant les derniers mois de gestation et il faut qu'ils les dégradent. Nos bébés arrivent au monde avec beaucoup plus de glycogène, par exemple, que nous-mêmes. Et alors, c'est fait pour. Donc, juste ajouter un tout petit peu de sucre au contenu composante très riche de colostrum. Donc, le colostrum, c'est vraiment dominé par les graisses et les facteurs immunitaires. Donc, en ce moment-là, le bébé va prendre tout son compte, tout le colostrum nécessaire dans les 3 premiers jours. La montée de lait se fait plus rapidement et on n'a que des bénéfices. Quand les mères, moi, je dis que les mères sont proactives. Actuellement, les mères sont instruites, on leur enseigne d'être réactives. Donc, c'est très bien de réagir aux signes du bébé. Mais au départ, il faut qu'elles soient proactives. Elles ont très envie d'être proactives, mais on leur dit de ne pas le faire, de ne pas aider le bébé, comme si c'est le bébé sait tout faire et elle ne sait rien. Donc le BN, c'est vraiment...
C'est l'alliance entre les deux.
Mais oui, l'allaitement, c'est un acte réciproque. Comme j'ai dit dans ma petite phrase, entre deux mammifères purs. Donc, la maman n'a pas à trop réfléchir.
Oui, elle doit ni être trop dans le faire, ni non plus ne rien faire, puisqu'en fait, la vérité est entre les deux et elle sait ce qu'il faut faire pour aider son bébé si jamais, justement, il rencontre une petite
difficulté. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Albert. Et j'ai beaucoup appris en lisant ses travaux parce qu'il suggère que nous ne pouvons pas apprendre à faire un acte vital sans avoir un contact avec un corps en mouvement. La façon de l'exprimer est bizarre, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
C'est-à-dire que le corps de la mère apprend au bébé comment téter et le corps du bébé apprend à la mère comment allaiter. Et donc, c'est réciproque. Nous ne pouvons pas apprendre comment allaiter d'un livre. Je ne peux pas écrire un protocole BN, parce que ça n'existe pas. C'est le confort, donc on cherche toujours le confort des positions qui utilisent la pesanteur, c'est-à-dire que le bébé doit toujours être dans un contact ventral continu, dans les positions que nous enseignaient pour apprendre aux mères les techniques d'allaitement, le contact ventral est toujours interrompu, comme elle fait un va-et-vient pour déclencher un réflexe d'ouverture de la bouche et on lui dit que le bébé doit ouvrir grande la bouche. C'est absolument pas vrai. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche aussi grande que cela parce qu'en BN, on est sur le sein. Donc le bébé prend le sein et des recherches récentes, même du premier niveau, une méta-analyse de 12 études démontre clairement que le BN, en étant uniquement une position, réduit à 50% le nombre de mères qui ont des mamelons douloureux et des crevasses pendant la mise au sein, au départ en maternité.
Ouais, ce qui est le principal problème en maternité, c'est quand même les douleurs, les premiers temps d'allaitement. C'est d'ailleurs ce qui fait peur aux mères qui même se demandent si elles vont allaiter ou pas, c'est que c'est tellement ancré maintenant dans les mentalités que l'allaitement, ça fait mal au démarrage.
Exactement. Donc, je suis en train de dire, j'offre une interprétation, c'est-à-dire que chaque fois que vous enseignez en tant que professionnel de santé, vous enseignez une position classique aux mères, vous doublez le risque qu'elles aient mal. C'est incroyable, mais il y a pas mal de gens qui donc, cherchent à ignorer l'existence de cette recherche. Et ça continue, il y a une 13e étude où ils ont aussi vu une réduction de 50%. Ce sont des études randomisées, contrôlées, vraiment le premier niveau de l'évidence. Et les positions verticales, on n'a jamais étudié ces positions. On a assumé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on a juste utilisé des positions dans lesquelles nous mangeons, pensant que sans doute ce sont des bonnes positions pour allaiter si nous les utilisons pour manger. Mais nos bébés, c'est clair, nous sommes des mammifères. Nous naissons mammifères qui sont vraiment aptes à téter de façon optimale en position ventrale, ventrale continue.
Avec la pesanteur, avec ce poids.
Mais oui, c'est-à-dire que la maman n'est pas obligée de tenir le dos ou appuyer dans le dos pour contrecarrer les effets de la pesanteur qui tire le bébé vers le centre de la terre. Mm-hmm. Donc, il tire tout bébé en position classique vers les genoux.
Et qui l'empêche de bien maintenir le sein dans la bouche.
Mais oui, et de plus, elle a les deux mains occupées. il y a toujours une main qui tient le sein, qui le présente, et l'autre qui appuie sur le dos, le cou du bébé. Mmh. Et en ce moment-là, c'est presque impossible de s'exprimer, de découvrir des gestes instinctifs.
Et puis, c'est impossible d'appuyer sur la télécommande pour mettre Netflix en même temps.
Oui.
Puisqu'on est dans cette parfaite position pour allumer Netflix. Alors, c'est quand même dommage.
On ne peut pas changer de chaîne.
Si, on ne peut pas changer de chaîne.
Non, mais c'est vraiment... J'ai beaucoup réfléchi récemment à les conditions nécessaires pour libérer un allaitement instinctif. Alors, ce sont des gestes... Je me permets d'utiliser le mot instinctif parce que n'importe quelle personne en BN, les papas, parce que les pères adorent être en BN avec leur bébé, les mères, les grands-pères, la fratrie, la voisine, la belle-mère, n'importe qui, en BN, on retrouve exactement les mêmes gestes. Donc, ça, c'est la définition même d'un instinct. Mm. Mais je rappelle que ce n'est pas un instinct.
C'est vraiment
l'amour.
À différencier de l'instinct maternel.
Exactement.
Qui est d'ailleurs, à juste titre, remis en cause. On n'a pas... Peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Là, Suzanne, elle vous parle vraiment de l'instinct d'allaitement, en fait.
Ce sont des pas gestes, des mouvements maternels qui aident le bébé à trouver le sein. Et qui
en rend... tant que mammifère qu'il est.
Oui, et qui rend... Mais d'habitude, les mères mammifères ne donnent pas une idée d'aide. Mm-hmm. Donc, c'est à partir justement de ces observations... Sur les mères mammifères, les chattes, par exemple, ne semblent pas aider leur bébé à trouver le sein et prendre le sein. Ce n'est absolument pas le cas chez nous. Nous aidons nos bébés à moins qu'on nous dise de ne pas le faire. Mmh. Et actuellement, la plupart des professionnels de lactation disent qu'il faut laisser faire le bébé. C'est absolument faux. Les bébés ne sont pas plus compétents que leur mère. Leur mère a eu énormément d'expérience dans la vie et elles sont prêtes et elles ont tout en elles pour trouver la façon de le faire. Mais c'est nous, avec nos positions imposées, qui limitent l'utilisation des mains. Je ne peux rien faire de façon spontanée si mes mains sont prises.
Oui, tout à fait.
Donc, on n'a jamais remis en question toutes ces positions qui créent la plupart des problèmes qu'elles sont supposées régler ou résoudre. Ouais.
Ok. Du coup, si on repart sur nos six composantes, on s'est un peu égaré, mais peut-être que du coup, tu en as dit d'autres. On avait dit un, le confort maternel.
Le confort, oui.
Deux, les états d'éveil de bébé, donc le fait qu'il peut tout à fait téter dans son sommeil et que s'il était en état calme, tant mieux. Mais sinon, vraiment, l'idée, c'est qu'il soit au bon endroit le plus souvent possible. En tout cas, autant que le désire la maman, tu l'as dit tout à l'heure. Et je pense que c'est important de le préciser parce que peut-être qu'on n'a pas, on a pas tout justement cette envie de l'avoir en permanence sur nous, mais autant qu'on le souhaite, en tout cas, on ne doit pas être freiné par les « on dit » de « il faut le poser dans son berceau »,
oui,
etc.
Et c'est surtout les premiers jours.
Oui, voilà, bien sûr, on parle des démarrages.
Parce que si on ne désire plus porter son bébé, donc on va le savoir déjà, parce qu'on l'a porté beaucoup, beaucoup pendant les deux premiers jours, et la lactation commence vraiment à se mettre en place à partir de tout ce temps au départ.
Ouais.
Mais si on désire continuer à porter son bébé, c'est aussi bien, il n'y a pas de raison.
En trois, du coup,
les composantes, c'est le contact ventral continu.
Ouais, dont on a parlé.
Donc ça, c'est aussi, je dirais, aussi important que la position adossée pour la mère. Parce que dès qu'elle est adossée, elle ouvre son corps.
Oui, et donc de facto, le bébé se retrouve en contact ventral continu. Puisqu'avec la pesanteur, il se retrouve face à face.
Exactement. Donc la pesanteur scotche le bébé au corps. Et puis, il y a là, je dirais que dès que la maman voit son bébé endormi, elle le regarde avec tellement de... curiosité, de bienveillance, d'amour. On n'est pas obligé d'aimer nos bébés tout de suite quand on accouche. Et puis des fois, je ne sais pas, on peut être peut-être fâché parce que ça fait très mal. on peut regarder le bébé et voir l'oncle Georges. Et on n'a jamais aimé l'oncle Georges. Donc, il est très possible qu'on n'a pas des sentiments d'amour tout de suite après l'accouchement. Moi, je ne vois pas de problème vis-à-vis de cela. Je n'attends pas que toutes les mères tombent instantanément amoureuses de leur bébé. Mais quand le bébé est en contact ventral continu, elle est confortable. Elle regarde son bébé. Elle devient curieuse et bon, elle commence à explorer. Il dort, donc il ne fait pas de demande. Elle commence à compter les doigts de pied. Elle regarde derrière les oreilles. Elle fait des tas elle découvre son bébé. Les bébés sont faits pour être mignons. Et surtout, chez beaucoup de femmes, si vous êtes dans le bus, et une femme entre avec un nouveau-né, vous avez toutes les femmes, beaucoup de femmes, peut-être pas toutes, qui « Oh, que c'est mignon et tout et tout ». Beaucoup d'hommes aussi, c'est pas juste réservé aux femmes cet amour. Quand on tient le bébé comme ça, juste à le regarder, puis il se réveille, et puis il arrive à nous regarder, il y a le croisement des yeux. Alors ces facteurs stimule la pulsatilité de l'ocytocine. Et c'est la pulsatilité élevée de l'ocytocine qui déclenche des mouvements spontanés, des mouvements et des comportements instinctifs. Et donc, ça va main en main avec... parce que ce regard bienveillant et le croisement des yeux met les femmes, enfin, réduisent et neutralisent l'inhibition néocorticale. La neutralisation de l'inhibition néocorticale va main en main avec une pulsatilité élevée de l'ocytocine. Oui.
Sachant que le néocortex, c'est celui qui fait de nous des êtres différents justement de l'animal pur,
de tout autre
social,
mammifère,
etc.
Nous avons un très grand cerveau qui nous aide à réfléchir, à calculer.
Voilà, c'est ce qui nous fait trop réfléchir,
exactement.
Le néocortex, ce qui est surstimulé dans le monde d'aujourd'hui.
Oui.
Et donc là, tu disais, voilà, ce moment, ce regard, ces échanges avec les yeux permettent la pulsatilité de l'ocytocine qui, elle, inhibe ce néocortex, c'est bien ça?
Je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand l'environnement désactive le néocortex...
Ah, d'accord. Ça commence par l'environnement qui désactive le néocortex, alors ça permet la pulsatilité de l'ocytocine.
Oui, alors la pulsatilité va... Mais c'est difficile parce que
sûrement que l'un joue sur l'autre et inversement.
Oui, l'un peut nourrir l'autre. Mais mon travail en tant qu'accompagnante BN, c'est de vraiment veiller à ce que l'environnement même soit propice à une pulsatilité élevée de l'ocytocine.
Ouais, qui déclenche ses comportements innés,
ouais,
encore une
exactement.
Fois.
Donc, pour le faire, je vais, par exemple, baisser la lumière, tamiser la lumière. Je ne vais pas poser de questions. C'est chaque fois que je pose une question, je fais réfléchir. Ça active le néocortex. Je ne vais pas initier une conversation banale. Est-ce que vous savez ce que vous allez... le prénom de votre bébé, par exemple, à la naissance? Ce que je voudrais qu'elle reste vraiment...
dans sa bulle.
Dans sa bulle. Donc, je protège cette bulle. Et c'est ça qui est important.
Du coup, ce serait un peu cette quatrième composante, le regard, cette pulsatilité de l'ocytocine.
Oui, en BN, l'objectif, c'est ou bien protéger, parce que l'ocytocine est une hormone timide. On a dit, Michel Audon l'a dit.
C'est vrai.
Faut
elle
dire
est timide.
Que
en tout cas, l'ocytocine naturelle est timide.
Oui, oui. Si vous avez lu tous ces livres à Michel, vous allez voir que j'ai pris toutes ces idées et je les applique à l'allaitement. Mm-hmm. Et surtout, l'allaitement au départ. Parce que l'allaitement, au départ, c'est une activité involontaire, intime.
Une continuité
entre deux
de cet
personnes.
Accouchement.
Mais plus tard, les mères adorent parler de leur bébé, et même au départ. Mais pas pendant le temps qu'elles initient. Parce que pendant le temps qu'elles initient, elles sont avec leur bébé, pas avec d'autres personnes. Mm-hmm. Et c'est cet apprentissage réciproque entre deux corps en mouvement qui est important pour libérer l'allaitement et les gestes instinctifs.
Ouais, et quand tu dis ces tout premiers temps, c'est vraiment les premiers jours, en fait, c'est ce moment où on est à la maternité, quoi.
Exactement.
Globalement, avant la montée de lait.
Oui, oui. Donc, c'est tellement plus facile. Ce serait bien, on pourrait faire tout genre d'hypothèses vis-à-vis de cela, parce que les mères peuvent peut-être éviter cette nuit de Java, qui est le troisième jour, je ne sais pas, si elles allaitent beaucoup la journée. Le bébé n'a pas un sens de jour et nuit, un biorhythme
circadien.
Donc, c'est pas comme s'il doit têter la nuit, c'est qu'on le met dans une boîte en plastique toute la journée en attendant des signes d'éveil, en attendant des signes qui montrent qu'il a faim.
Oui, peut-être que c'est juste au moment où c'est...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Sombre, calme, et que cet environnement est un peu plus propice justement que du coup il vient s'activer.
Bah, et il est aussi possible qu'on hésite à allaiter devant les gens qui nous rendent visite en maternité. Mais en BN, comme le bébé dort, c'est beaucoup plus facile. C'est pas comme j'annonce au monde j'allaite et puis je prends un coussin, je mets en vertical, je suis un protocole. En BN, le bébé est endormi sur le sein. La maman n'est pas endormie.
Mmh. Non, c'est le bébé.
Mmh. Oui, c'est le bébé et c'est la journée. Il y a beaucoup de mères qui n'arrivent pas vraiment à dormir profondément, je dirais, tout de suite après avoir. Souvent, on dit que les mères sont fatiguées, les bébés sont fatigués. Enfin, tout le monde est pareil et fatigué après. Je pense que ce n'est pas la même notion de fatigue. On est surexcité souvent après l'accouchement. On n'arrive pas à retrouver son sommeil la première nuit, surtout si le bébé va naître entre 8, 9, 10 heures ou même pendant la nuit. Beaucoup de bébés naissent pendant la nuit. Et c'est très bien de continuer à garder le bébé à la bonne adresse. Pendant la grossesse, le bébé était à la bonne adresse. On ne pouvait pas le poser. Donc, la nature nous demande encore quelques temps.
Un peu de continuité.
Oui. Et le bébé, maintenant, est sur le corps. Et si maman désire dormir, bien sûr, elle va le faire, mais qu'elle mette son bébé en sécurité et qu'elle se mette sur le ventre elle-même si elle désire. Ce que pendant la grossesse, beaucoup de mères manque de ne pas pouvoir dormir sur le ventre. Donc, elles mettent leur bébé en sécurité en ce moment-là. Et puis, peut-être que les bébés, c'est une hypothèse, je ne sais pas, mais peut-être les bébés vont réclamer moins la nuit ou que les tétés vont être beaucoup plus faciles la nuit. Le but, ce n'est pas de ne pas nourrir le bébé la nuit,
non, bien
mais
sûr.
Que ça se passe facilement et que c'est peut-être 15 ou 20 ou une demi-heure, 15-20 minutes, une demi-heure. Et puis, le bébé se rendort et maman puisse se mettre elle-même sur le ventre et dormir.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Le cinquième et le sixième point, c'est les gestes innés, des réflexes archaïques du bébé, qui sont des mouvements involontaires, soit-ils endogènes ou exogènes, soit-ils stimulés par des stimuli endogènes ou exogènes. C'est important.
Endogène, c'est ce qui appartient au bébé dans son corps. Et exogène, c'est les stimuli extérieurs qui viennent s'appliquer à lui et qui déclenchent. Les réflexes archaïques, c'est... On en a déjà parlé dans un épisode, c'est le 27, je crois, avec Ludivine Beaubry, que vous pourrez réécouter. Mais les réflexes archaïques, c'est donc des mouvements involontaires générés par des stimuli, donc comme Suzanne vous le dit, endogènes ou exogènes, donc qu'on ne contrôle pas.
À vrai dire, les réflexes archaïques sont stimulés uniquement par des stimuli exogènes, sensoriels, par l'odeur, le toucher, l'ouïe, l'audition, le goût.
Oui, tous les sens.
Alors, tous les sens. Donc, c'est sensoriel. Tandis que les mouvements endogènes sont... Vous ne pouvez pas véritablement identifier le stimulus. Et il faut différencier. Parce que bien souvent, dans le ventre, le bébé a beaucoup de mouvements généraux, ce que Prechtel appelle des mouvements généraux, qui deviennent des réflexes archaïques après, et, mais qui restent aussi endogènes, comme l'ouverture de la bouche, l'étirement de la langue. Mm-hmm. Si on regarde un bébé dans le berceau, il ouvre la bouche et nous ne savons pas pourquoi. Donc, ça, ce n'est pas un réflexe archaïque. Et la différence entre ces réflexes que Ludivine vous a décrits, c'est que plus tard, ces réflexes sont conditionnés. Et le conditionnement implique le néocortex. Donc, il y a c'est une activité aussi bien néocorticale que c'est involontaire, mais il y a tout de même, c'est comme Pavlov. et les chiens, tout le monde comprend ça, mais ça implique une activité néocorticale que, à la naissance, le bébé n'a pas, qui est en voie de développement à la naissance.
Ouais, là, on est sur des choses purement...
purement involontaires, comme les mères. L'allaitement est un acte involontaire, même si elle ne désire pas allaiter, elle aura du lait. Elle aura les mêmes gestes et mouvements d'aide à l'allaitement à partir d'un contact continu avec son bébé, cet apprentissage corporel, elle va faire exactement les mêmes mouvements que toute mère fait pour aider le bébé à trouver et prendre le sein.
Ok, très bien. Non, mais du coup, ça différencie en termes de nécessité des réflexes archaïques que vous voyez le pédiatre faire à la maternité. Là, ils viennent tester l'intégrité du système neurologique.
Oui.
Et ces mêmes mouvements, en fait, servent au bébé pour s'orienter, pour téter.
Mais oui, il y a 5 fonctions que je liste dans mon livre. C'est difficile parce que plusieurs de ces réflexes servent plusieurs fonctions. Mais il y a des réflexes primaires de la prise de sein qui sont des réflexes sur le visage trijumeau, y compris la glabelle, qui est un point entre les yeux. Et beaucoup de bébés, normalement, trouvent le sein en stimulant la glabelle, ce point, et le menton en même temps, qui constitue le réflexe de fouissement pivert. C'est pas tellement pour les mères, c'est beaucoup plus pour les professionnels de santé. Pour les mères, le BN, c'est l'allaitement instinctif. Nous n'avons rien à apprendre aux mères. Mais pour les professionnels de santé, le BN, c'est une méthode structurée d'observation d'allaitement et basée sur ces 6 composantes. Donc, pour les mères, nous pouvons voir, ça c'est le 6e, c'est les gestes maternels.
Ah oui, donc il y a les gestes innés bébé et les gestes innés maman.
Exactement. Donc, nous avons 3 groupes pour les professionnels de santé, 3 groupes d'observation, des positions, position adossée de la mère, elle n'a pas besoin d'être en peau à peau, elle repose son dos contre la chaise, même au restaurant, au café,
partout, bar, c'est faisable, partout. Même avec une chaise pas très confortable.
Même si la chaise n'est pas confortable, nous pouvons être plus confortables dans une chaise pas confortable. Mm-hmm. Donc, la position contact ventral continu pour le bébé, la complexion hormonale d'ocytocine pour la maman et tous les états de vigilance du bébé, surtout de façon optimale au départ, quand il est endormi en sommeil indéterminé. Et puis, donc ça, c'est le groupe état de conscience. Mm-hmm. Et puis, le troisième groupe, c'est des comportements. Un comportement, c'est une action, une réaction que nous pouvons ou bien voir ou entendre et décrire de façon objective. Donc, pour les mères, ces actions ou ces réactions sont aussi spontanées, innées et, je dis, instinctives parce que tout le monde, est-ce que je sais que toutes les femmes, quand elles attendent un bébé, elles touchent et font un mouvement de voilage, de couverture
autour
de son bébé.
Ventre. Mm-hmm.
Elles touchent le ventre. Plus elles avancent dans sa grossesse, plus elles touchent, elles peuvent jouer avec le bébé. Et c'est peut-être une action de protection, un comportement de communication. Nous pouvons interpréter ce geste que toutes les femmes font lors de la grossesse. Mais après, en BN, toutes les femmes font ce même geste et bien souvent, juste après la prise de sein, elles font un genre de même, exactement le même.
C'est vrai.
Exact. Et c'est ce que je montre lors de mes présentations. Toutes les mères et toute personne en BN va placer...
Oui, sans même que le bébé tête.
Oui, placer le bébé sur son corps à un point confortable pour les deux. Et les mères placent leur bébé, à moins qu'on leur dise de ne pas le faire. Souvent, les protocoles peau à peau disent que les mères ne devraient pas placer ou déplacer leur bébé. C'est absolument ridicule de dire à la moitié d'une relation de ne rien faire, de ne pas répondre, de ne rien... Les bébés ont besoin qu'on les guide, bien sûr. Nous sommes leurs
parents. Oui, pourquoi pas.
Donc ça, toute personne le fait. Ça s'appelle le placement.
Mm-hmm.
Le visage trijumeau et les nerfs trijumeaux sont très sensibles. Et toutes les mères vont stimuler sans vraiment toucher le ganglion qui se trouve juste à côté à chaque
ouais.
oreille.
Le trijumeau, c'est vraiment un nerf sensitif pour toute la face.
Exactement.
De haut en bas, qui a trois racines.
C'est passionnant, ça.
Le maxillaire supérieur, donc la mâchoire supérieure, la pommette, si vous voulez, et mâchoire inférieure. Et le ganglion, il est devant l'oreille, quoi,
devant
la racine
l'oreille.
De la mâchoire.
Et je montre ces gestes et aussi un genre de voilage sur le haut de la tête. Je viens de faire toute une journée passionnante avec les IBCLC à Bordeaux. Et je leur invitais juste de ne pas mettre sa main sur la tête, mais de juste stimuler juste au-dessus des cheveux. Et on le ressent, ça. Et les mères le font spontanément.
Oui, oui.
Toutes les mères font un nid autour de leur bébé avec les deux bras. Toutes les mères et toute personne.
Oui.
Les grands-pères font ça, en BN, mais uniquement en BN. Alors pourquoi? Parce qu'on a les deux mains libres. C'est la pesanteur qui scotche.
Le bébé, oui.
Le bébé au corps en contact ventral continu. Donc, c'est pas des choses que j'enseigne aux mères, mais cette discussion que nous avons, c'est peut-être beaucoup plus dirigée vers les professionnels de santé, mais il n'y a pas de protocole. Le degré d'inclinaison change, mais le contact ventral continue, reste pareil, même quand le bébé est dans plusieurs orientations. Il peut être longitudinal, en oblique et en transverse.
Ouais, ça, je pense que c'est important à rappeler parce que c'est vrai que dans la description qui est faite un peu rapidement du BN, on a toujours l'idée, enfin, moi, c'est ce que les mamans me disent quand elles arrivent en consultation, elles me disent. « Oh, le BN, j'ai du mal parce qu'il faut le mettre vertical.
Ouais, »
Je leur dis, mais
c'est
pas ça le BN. Ouais. Le BN, vous pouvez le mettre à 360 degrés
exactement.
Autour de vous. Si vous avez envie d'avoir
exactement.
Son corps sur votre tête, finalement, vous pouvez. C'est plus la pesanteur que vous venez mettre et cette capacité que le bébé va avoir avec la pesanteur aussi à garder plus facilement le sein en bouche, à ce que le flux de lait, ce soit plus lui qui le gère plutôt qu'il lui arrive dans
mais
la
oui.
bouche
mais
assez
oui, beaucoup
fort.
De, beaucoup de mères, aujourd'hui, comme moi, j'ai allaité, on ne parlait jamais du REF. Enfin, si, peut-être on avait un réflexe d'éjection fort, mais c'était vu comme un atout, tandis qu'aujourd'hui, c'est vu comme un problème. Le réflexe d'éjection fort, toute mère a ce réflexe. C'est
la question, c'est comment le bébé le gère.
L'allaitement efficace. Mais le bébé est prématuré. Il a besoin de plusieurs mois de maturité pour pouvoir contrôler. Et certains bébés ont du mal pendant les premiers 6 mois. En BN, au moins, ils contrôlent s'ils têtent. Certains bébés vont arrêter de têter et attendre. D'autres bébés vont presque suffoquer sur le réflexe fort. En ce moment-là, les mères peuvent l'aider à lui parler tout doucement. Il va rattraper, il va apprendre petit à petit comment contrôler le réflexe. Mais c'est beaucoup plus un problème de bébé, pas de mère. Je crois que chaque fois qu'il y a un problème, les mères disent, oh, ben, si j'avais su, si j'avais fait, c'est ma faute. Les bébés sont nés, nos bébés naissent avec tous les systèmes qui sont immatures.
Ouais. Mais en tout cas, on peut se dire que être dans des positions attenantes au BN avec le bébé qui a la pesanteur pour lui va probablement, un peu comme pour les douleurs dont tu parlais tout à l'heure, diminuer les impacts de ce réflexe d'éjection plus ou moins fort, parce que le bébé va avoir finalement plus son mot à dire si voilà, je vais arrêter de téter, j'enlève ma tête, etc. Ce qui est moins facile dans les positions où il se retrouve un peu avec le lait qui lui coule fort dans la bouche et qu'il n'a pas ses réflexes archaïques.
Encore une fois, le bébé ne se dit pas « je vais arrêter la tétée ». C'est spontané. Mais un peu comme nous, c'est
oui,
spontané.
Ça le gêne, il se retire.
Si j'ai un tuyau de gazon et j'ouvre le robinet, je mets un spray, n'est-ce pas, tu vas pas penser « oh, je dois je dois éviter ».
Non, c'est un réflexe.
Oui, il y a certains mouvements, réflexes qui nous restent involontaires.
Mais pour ça, il faut être dans une position où ces mouvements peuvent
s'exprimer. De façon positive. Parce qu'en position classique, la plupart des temps, on supprime les réflexes en disant aux mères, vous enveloppez le bébé ou vous prenez sa main.
Qu'est-ce
qui
supprime
sur le dos?
Qu'est-ce qui fait dans ces positions-là que les réflexes archaïques s'expriment moins bien? C'est le fait de ne pas avoir cette pesanteur et ces frottements naturels du bébé contre la maman. Certains disent que c'est aussi le fait qu'ils n'aient pas les pieds en contact.
Ce qui est important aussi, et quelque chose que j'ai pris de la lecture de Prechtel. Enfin, Prechtel ne parle pas d'allaitement, mais il parle des mouvements gracieux et élégants du fœtus quand il a un appui plantaire. J'ai aussi appris d'une mère qui me disait, je ne sais pas pourquoi, mais je mets toujours une couverture sous les pieds de mon bébé. Elle a spontanément mis son bébé en BN. J'avais 3 personnes qui spontanément, sur les 40 que j'ai étudiées,
oui,
les diades en allaitement, il y en avait 3 qui spontanément allaitaient en BN. Et les autres commençaient leur allaitement, les tétées en position classique. Alors, elle m'expliquait qu'elle mettait une couverture. Et je me suis dit, mais elle a raison. Parce que Prechtel le dit. Donc, pour conserver la fluidité des mouvements, si on met... La plupart des bébés, de toute façon, ont un appui plantaire avec la plante des pieds contre le corps, peut-être la cuisse de la mère, ou contre l'environnement.
Mm-hmm.
Mais si le bébé ne l'a pas, beaucoup de mères spontanément vont le mettre.
Vont le créer.
Le créer. Et ça va main en main avec une expression plus fluide des mouvements.
D'accord.
Et en BN, la pesanteur, l'appui plantaire et l'étété en sommet indéterminé travaillent ensemble pour adoucir l'intensité et l'amplitude des mouvements du nouveau-né, qui sont très souvent perçus comme étant brusque et saccadé.
Oui, d'accord. Donc ça va venir atténuer ça et donc faciliter la prise de sein pour l'allaitement.
Ben oui, mais c'est... Oui.
Ça va aller sur une autre question que je voulais te poser. C'est finalement, est-ce que le BN, c'est... Est-ce que c'est une position ou est-ce que c'est bien plus que ça? Est-ce que c'est pas plutôt comment créer les conditions les meilleures simplement?
Oui. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous cherchons en BN à identifier les variables, les composantes, les comportements, parce que toutes ces six composantes sont des comportements universels qu'on trouve dans tout allaitement réussi. Efficace et joyeuse. Toutes les observations protocolaires, je dirais, ne sont pas souples. Voilà ce que vous devez faire. C'est une façon. Des fois, ça marche. Je veux bien que des fois, ça marche. Si ça marche, c'est très bien. Moi, je n'ai rien contre des positions classiques. Beaucoup de mères utilisent les positions classiques une fois parce que nous avons même besoin d'être verticales. Dans notre vie, nous sommes bipèdes, nos bébés sont des quadrupèdes. Enfin, il y a tellement de choses.
Mm-hmm. Non, mais en tout cas, quand on voit les difficultés que les mères rencontrent aujourd'hui pour allaiter, on peut se dire que si ces positions classiques étaient suffisantes, on le saurait déjà, en fait. Donc, il faut proposer de l'alternative.
Oui, depuis les années 80 qu'on a créé ces protocoles. Et depuis les années 80... Plus de mères initient l'allaitement, mais 3 mois, il y a un tiers ou même plus de celles qui initient dans presque tous les pays industrialisés qui ont arrêté. Et surtout l'allaitement exclusif qui est recommandé pendant au moins 6 mois. Je crois que 6 mois, c'est très bien de le dire, mais c'est...
C'est-à-dire qu'en dehors des moyenne, aspects positionnels, etc., on a aussi toute la composante sociétale, c'est-à-dire que comme les femmes reprennent le travail tôt, etc.
Exactement.
Voilà, il y a différents facteurs qui viennent.
Oui, c'est pas
se surajouter.
Mais je dirais que de toute façon, la diversification peut commencer entre 5 et 7 mois. Donc, on a dit 6 mois en moyenne, mais beaucoup de bébés, là, on peut parler des signes. d'un besoin de diversification. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de signes. Là, on peut même se permettre d'enseigner ces signes aux mères. Mais ça, c'est beaucoup plus tard, quand le bébé est prêt et peut montrer qu'il est prêt.
Des signes, oui. Avant ça, là, on est vraiment sur des choses plus involontaires.
Exactement. Au départ, si le bébé a des réflexes, il va téter.
Il y avait une autre question que je voulais te poser. Souvent dans les positions BN, il y a une petite confusion qui est faite avec le pot à pot. On dit beaucoup aux mères aussi de façon générale pour initier l'allaitement. Et puis même sans parler d'allaitement, on est beaucoup aujourd'hui à dire qu'il faut faire du pot à pot, que c'est très important, etc. Moi, ce que je constate quand j'en parle avec les mamans, c'est qu'il y en a qui sont à l'aise avec ça, d'autres qui ne sont pas à l'aise avec ça.
Ouais.
Et en lisant ton livre, je me suis rendu compte qu'avec les études que vous aviez faites, vous ne voyez pas de grande différence en fait, entre ce contact peau à peau et le contact rapproché dans cette position, dans cet environnement propice pour bébé et pour maman, sur les différentes constantes. Est-ce que tu peux nous en reparler rapidement?
Oui, juste un petit peu. Je pense que le peau à peau peut être délicieux.
Ouais.
Donc ça, je ne suis pas contre le peau à peau. Mais je pense qu'on a tendance à associer un contact n'importe quel contact nu avec l'allaitement réussi. Et pour moi, ce n'est pas une variable, mm-hmm. un comportement universel. C'est-à-dire qu'on peut très bien allaiter sans jamais avoir eu un contact peau à peau. Donc ça, c'est un premier point important. Deuxièmement, souvent, les positions peau à peau n'utilisent pas l'apaisanteur. Donc, quand la maman est à plat dos et le bébé est à plat ventre, il aura du mal à élever la tête contre la pesanteur. Et donc, ça peut créer des troubles respiratoires. Ou on blâme la mère parce que, comme j'ai dit, elle ne voit pas son bébé qui peine pour respirer.
Oui, donc ça, c'est si vraiment elle est en position allongée complète. On ne parle pas justement de...
Mais regardez presque toutes les photos qu'on voit de peau à peau, la maman a du mal à voir son bébé, même si elle est légèrement relevée. Donc, le degré d'inclinaison en BN optimise le regard et le croisement des yeux. Et ça, je ne peux pas le dire assez. Donc, ça, c'est quelque chose... Je veille en tant que sage-femme à ce qu'elle peut voir son bébé. Quand elle voit son bébé, sans dépense énergétique, quand le bébé est dans une position où il dépense le moins d'énergie possible pour prendre le sein, ça marche. Et prend le sein rapidement. Mais s'il doit passer 55 minutes à trouver le sein parce qu'on l'a placé loin, ou si on le place sous le menton de la mère, en ce moment-là, peu de bébés peuvent faire marche en arrière parce que leur motricité n'est pas mature. En ce moment-là, c'est encore les procédés, les protocoles qui sont en faute. Donc, je peux regarder la mère et si son visage ne peint pas un portrait de l'ocytocine, mm-hmm. en ce moment-là, je vais peut-être chercher la raison. C'est peut-être que l'oncle Georges, le pauvre l'oncle Georges, est dans la chambre et elle est gênée parce qu'elle ne veut pas être nue devant l'oncle Georges. Mm-hmm. Ou peut-être elle ne veut pas être nue pendant n'importe qui.
Oui, même pas nue tout court d'ailleurs.
Ben, exactement. Donc, souvent, elle est la seule personne dans la chambre qui est nue. Et donc, ça va faire chuter la pulsatilité de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est le carburant d'un allaitement efficace et joyeuse, je dirais.
Moi, tu vois, typiquement, je n'ai pas un souvenir, alors ça fait déjà 5 ans maintenant que j'ai accouché, mais qu'on m'ait demandé que le pot à pot soit quelque chose de nécessairement allongé. Mais par contre, il y avait cette notion, en effet, de nudité. Mais si on reste sur une position BN, on va dire, tu vois, avec cette inclinaison, le confort de la maman, etc., est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à être en plus en peau à peau avec la nudité ou pas?
Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. C'est vraiment à chaque diade. C'est comme si tu me demandais si on a intérêt à être nu quand on fait l'amour.
Hmm. Ben, chacun fait ce
qu'il
veut.
Je dirais oui, à moins que non. Je ne sais pas. Ça dépend de l'environnement.
Donc là, ce qui est important, c'est de s'écouter et d'être à l'aise, parce que
oui,
c'est ça qui va permettre cet environnement propice, confortable, doux, qui va permettre la pulsatilité de l'ocytocine.
Souvent, on disait, les mères peuvent se dire, je ne peux pas allaiter quand je suis dans un jardin public parce que je dois être nue. Mais ce n'est pas vrai. Hmm. Elle n'est pas obligée d'être nue. D'autres mères qui adorent ça. Moi, je connais une maman qui avait un porte-bébé où elle pouvait vraiment, ça couvrait, elle pouvait sortir avec son bébé dans le porte-bébé nu. Le reste de son corps n'était pas nu, mais le contact, elle aimait ça. Mm-hmm. Donc, je peux pas préconiser qui va aimer ça. Tout ce que je dis, c'est pas un
c'est
comportement
pas nécessaire, en tout cas.
Universel nécessaire.
Ok. Non, mais c'est bon, ça répond à ma question. C'est pas nécessaire, c'est un plus. Et si c'est OK pour vous et que ça préserve un environnement propice où vous êtes confortable, très bien. Sinon, c'est
ceci
pas obligatoire.
Ceci dit, au départ, les bébés naissent nus. Donc, souvent, on va réveiller le bébé pour le déshabiller, pour le mettre en peau à peau. Alors ça, je trouve absolument ridicule. Il faut pas réveiller les bébés. On les allaite endormis. Enfin, le bébé est endormi. Mais au départ, le peau à peau est surtout une façon merveilleuse de stabiliser le bébé après l'accouchement. Et plus l'accouchement a été difficile, je dirais que plus le peau à peau va aider le bébé à naître,
ouais.
Et à retrouver et stabiliser tous ces systèmes physiologiques. Et je pense que ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux que de le mettre dans un incubateur. C'est beaucoup, beaucoup mieux, même si on doit donner un tout petit peu d'oxygène à un bébé, on pourrait le faire parfaitement bien. Avec le bébé placé juste sur la poitrine, pas nécessairement entre les seins, parce que l'idée, ce n'est pas l'allaitement.
Non, c'est le contact.
L'idée, c'est une stabilisation physiologique. Et ça, c'est tellement, tellement important. Et donc
ça a du sens plus pour stabiliser bébé, c'est constante, et plus juste après l'accouchement pour passer de cet état liquidien, etc.,
exactement,
à cet état aérien.
Exactement.
Une fois ce truc-là passé, si ça vous plaît, tant mieux, continuez. Sinon, ce n'est pas un critère indispensable à ce qu'un allaitement se passe bien.
Exactement, ça calme les mouvements. C'est juste ce contact tactile important où la maman va régler la température de son bébé si la salle de naissance est bien chauffée. Parce qu'il ne faut pas que les mères non plus aient froid.
Oui, bien sûr. Il y avait un truc que je trouvais intéressant, et puis moi, c'était intéressant plus pour moi, parce que je suis ostéopathe et que ça m'a parlé, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'ocytocine. Il est possible qu'il y ait un lien entre la position BN, mais vraiment au sens mécanique du terme, parce que la maman n'est pas... On n'est pas assis, vous voyez, sur les os des fesses. On est assis vraiment plus sur le sacrum. On vient enrouler le bassin. Et il y aurait un lien entre cet enroulement du bassin possible et la sécrétion d'ocytocine au niveau du cerveau. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu dis, en fait, le visage des mères change entre le moment où elles sont droites et le moment...
Oui, c'est ça que j'ai noté. C'est ça que j'appelle la complexion hormonale, qu'on peut lire presque sur le visage et le tonus. Et les comportements de la mère, un changement hormonal. Comme, par exemple, on pourrait lire sur le visage de n'importe quelle personne dans la voiture s'il se fâche. Et il y a un taux d'adrénaline visiblement. Et on appelle ça le rage de la route, ouais. N'est-ce pas? Où des gens peuvent même quitter leur voiture et donner des claques, n'est-ce pas? Donc, leur tonus, leur visage est plein d'agressivité, n'est-ce pas? Donc, on peut faire la même chose vis-à-vis de l'ocytocine. C'est presque, si on cherche un descriptif de cela, il suffit de regarder les descriptifs sur le maquillage.
Ouais.
C'est juste ça, n'est-ce pas?
C'est
vraiment
coup...
intéressant. Alors, quand j'ai parlé de cela à un ostéo, naturopathe qui m'aidait à observer des comportements et calculer la validité et la fiabilité des comportements lors de ma recherche, il m'a dit, mais oui, je comprends pourquoi. Parce que dès qu'on balance, on se balance en arrière, ce mouvement même déclenche un genre de flux nerveux peut-être. Je comprends pas exactement.
En ostéopathie, le crâne et le bassin sont liés, en fait.
Oui.
Donc, ce qui se passe au niveau du bassin a des répercussions au niveau du crâne et inversement. Donc, le fait de vous mettre en arrière et plutôt que d'être sur les os des fesses, de venir basculer sur votre sacrum, donc la pièce osseuse qui est pour le coup entre les fesses, ça va avoir un effet sur le crâne. Et lui, il t'expliquait...
Et que ça pouvait donc appuyer sur l'hypophyse postérieure où est stocké, bien sûr, l'ocytocine. Donc, je trouvais ça intéressant et j'ai mis ces thèses, hypothèses dans mon livre. J'ai ajouté un tout petit peu moi-même, suivant mes connaissances. Je n'avais jamais vraiment étudié cela.
Non, mais c'est possible que juste mécaniquement, déjà, il se passe quelque chose qui hormonalement ait un effet. Et c'est super intéressant, je trouve.
Oui, je trouve que c'est intéressant aussi.
J'ai une maman dans la boîte à questions qui m'a demandé comment faire si elle n'était pas à l'aise avec la position BN et elle me disait comment on fait avec une grosse poitrine pour faire du BN parce que mon bébé, il ne peut plus respirer.
J'entends souvent cette question, mais en BN, ce qui est important, c'est un contact ventral continu contre la mère et que le bébé, sa tête soit sur le sein. Donc, si elle a ses seins qui sont volumineux, si le sein est plus bas, elle mettra le bébé plus bas.
Ouais, est-ce que peut-être on peut imaginer que c'est une maman qui imagine la position BN, tu sais, assez stricte, là, dont on parlait tout à l'heure, ou bébé très vertical, etc. Enfin...
Non, mais le bébé n'est pas vertical. D'ailleurs, il serait beaucoup plus en oblique ou transversal.
Donc, à cette maman, on pourrait dire qu'il y a forcément un angle sur lequel le nez du bébé peut se dégager.
Oui.
Et que, voilà, il faut qu'elle se sente libre, ben, justement, d'aider son bébé à trouver la position la plus
correcte. C'est-à-dire que le bébé trouve le sein avec la glabelle et le nez est vraiment impliqué dans le sein. Donc, elle peut faire un canal de respiration. Tout le monde, récemment, depuis les années 80, on dit, les professionnels de lactation disaient qu'il ne fallait pas faire ce canal. C'est absolument faux.
C'est quoi un canal?
Un canal de respiration, c'est qu'elle presse sur son sein pour créer un petit canal où le bébé respire, où le nez est dégagé. Mm. Mais la plupart des bébés n'ont pas besoin de cela parce qu'ils ont des nez spécialement conçus pour l'allaitement. C'est-à-dire que tout bébé, n'importe quel groupe ethnique, a un nez plat avec des narines très ouvertes sur les deux côtés. Donc, c'est fait spécialement conçu pour l'allaitement.
Normalement, il y a un axe, il y a quelque chose à trouver, peut-être un petit déplacement
donc,
de bébé.
Aussi, nous pouvons, par exemple, je crois que j'ai lu quelque part quand j'étais en partie clinique, qu'on pouvait mettre un rouleau ou quelque chose sous le sein pour le soutenir.
Plus en hauteur.
Oui, plus en hauteur. Et enfin, ils ont parlé des rouleaux de papier toilette qu'on pouvait mettre. Et donc, j'ai essayé cela et puis je me suis rendu compte que les mères que je voyais à la maternité avaient toujours un courbet de fruits. Et ils avaient toujours des bananes. Donc, j'ai juste une fois, ça fait rire, mais le sourire d'une banane marche à merveille et ça tient le sein un peu.
Comme une baleine de soutien-gorge, mais c'est une banane.
Exactement. Donc, en plus, ça faisait rire les mères.
Bon, tester la banane.
Oui, donc on peut faire ça, ou on peut mettre quelque chose. On peut tenir le sein, parce qu'on a ces deux mains libres, on tient le sein. Donc, si on pense que le BN n'est qu'une position, on se prive de toutes les activités, des gestes spontanés de la mère. Les mères trouvent et aident leur bébé à prendre le sein. Et donc, en BN, les mères sont proactives. Oui. Au départ, bien sûr, après, elles ne vont pas... mettre un bébé à 4 mois.
Bien sûr, après il se débrouille.
Quand il est endormi, elle n'a pas besoin de porter un bébé de 3 semaines tout le temps.
Tout ça, c'est vraiment valable pour les démarrages d'allaitement.
Surtout pour les 3 premiers jours.
Très important.
Le temps de transition métabolique, physiologique, je dirais.
OK. Ça m'amène à la dernière question. Du coup, c'est quoi le rôle de quelqu'un qui accompagne OBN, qui est formé OBN? C'est donc pas de positionner cette maman, finalement.
Non, c'est pas de positionner et c'est pas de l'enseigner. Ça dépend un peu quand vous rencontrez la maman. Mm-hmm. Si elle a plein de problèmes et son bébé a 2 semaines, mm-hmm. donc en ce moment-là, vous êtes plus ou moins sûr qu'elle allait en position classique. Et il faudrait commencer par l'écouter pour qu'elle puisse exprimer toutes ses émotions et puis de pouvoir clarifier exactement quels sont les problèmes. C'est peut-être un simple problème d'utiliser la force de la pesanteur. Le bébé ne veut pas prendre le sein, elle dit, et vous pouvez lui dire, ben, le bébé, à son âge, a très peu de volonté. Donc, elle peut se sentir démunie parce qu'elle pense que son bébé n'aime pas son lait ou n'aime pas le sein. L'écoute suivant les procédés Rogers ou d'autres personnes, et puis la clarification, et puis donner des points d'information et pas des solutions. Donc, ça, si vous voyez les mères vous consultent parce qu'elles ont des problèmes. À la maternité, c'est tout autre chose. C'est vraiment protéger le démarrage de l'allaitement, protéger l'environnement parce que elles se sentent en sécurité, un environnement sécuritaire, je dirais.
Toujours dans cette histoire de préserver l'ocytocine qui déjà
oui.
doit être préservée pendant l'accouchement.
De neutraliser autant possible le néocortex, l'inhibition néocorticale qui, pendant l'acte même, ne va pas aider parce qu'elle peut être gênée ou elle veut se conformer. Oh, pas devant les voisins, n'est-ce pas? Donc,
et c'est protéger la mère et l'enfant de leur, dans leur bulle.
Protéger leur intimité.
Ouais.
Je dois chercher une activité pour quelqu'un qui gêne. Et je ne peux pas juste dire à la belle-mère qu'elle doit partir. Je dois absolument protéger, tamiser la lumière, être sûre que quand elle initie l'allaitement, qu'elles sont en parfaite sécurité.
Ouais. Donc, c'est protéger maman et bébé pour laisser les comportements innés pouvoir s'exprimer.
Oui, exactement. Donc, plus tard, et même pendant le séjour en maternité, bien sûr, je peux parler avec les mères, mais elle se sent déjà bien dans son allaitement et elle me raconte comment ça se passe. C'est formidable, j'adore faire ça.
Okay.
Mais quand elle est en train de faire l'acte, qu'elles ne se sont pas observées, que je perturbe pas, je ne parle pas, c'est pas à moi. Là, j'ai presque envie d'écrire un livre qui s'appelle « Qui allait votre bébé ?» Parce que souvent, les professionnels de santé pensent que c'est elles qui doivent tenir le sein et le bébé et les mettre ensemble.
Oui, alors que tout ça se fait de façon, encore une fois, assez instinctive.
Les gestes et les comportements, les vocalisations sont instinctifs pour les mères si elles ont des deux mains libres et si elles ne sont pas restreintes par l'inhibition néocorticale. Donc, c'est à moi de neutraliser. Elle ne peut pas le faire. C'est l'environnement dans lequel elle se trouve qui fait en sorte qu'elle peut entrer dans cette bulle d'ocytocine.
Ouais. Et on pourrait du coup se dire que le conjoint, la conjointe, enfin le deuxième parent pourrait prendre ce rôle-là.
Oui, absolument. Et il peut aussi l'encourager, chuchoter, par exemple. Il peut faire partie, mais c'est très important. Il peut être juste derrière elle avec ses bras autour, c'est adorable. Comme on a démarré, c'est l'allaitement maternel, c'est un acte involontaire entre deux mammifères purs. Papa est là pour protéger aussi l'environnement propice à une pulsatilité élevée de l'ocytocine, tout au moins au départ. Mais papa peut aussi avoir son bébé dans cet même environnement.
Oui, ouais, ouais, ça marche pour l'allaitement, mais ça marche de façon générale pour accompagner le bébé dans ses premiers temps de vie.
Oui, c'est la relation qui compte.
Super. Bon, bah parfait. Je crois qu'on s'est tout dit. Merci, Suzanne.
Ok, bah, je vous remercie.
D'avoir répondu à toutes ces questions.
C'est très chouette.
J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu ce qu'est le BN, qui n'est pas juste une position dans laquelle on place le bébé parmi tant d'autres,
oui.
mais vraiment tout un concept, c'est pas le mot, mais... plutôt un environnement à respecter pour que l'allaitement puisse s'exprimer au mieux, un peu comme on respecterait un accouchement. Il faut respecter les allaitements, finalement.
Oui.
Et donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté assez d'informations pour le comprendre et pas tellement pour savoir le listing des choses qu'il faut faire, mais plus dans quelles conditions il faut que vous vous trouviez pour que la magie opère, quoi.
Oui, exactement.
Ok. Merci beaucoup, Suzanne.
Merci.
Je te dis
beaucoup.
À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute et surtout le faire voyager pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milkshaker.fr, tu trouveras tous les épisodes du podcast depuis 2020 avec un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet qui t'intéresse. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé et qu'il ne faut pas le réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milkshaker, où les épisodes experts en particulier y sont résumés à l'écrit. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine en tapant mon nom sur Doctolib et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Believe.